La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots aujourd'hui qui voudrait vous emmener au théâtre et pas à n'importe quel théâtre puisqu'on a rendez-vous à la Comédie Française, tout ça à l'occasion de l'apparition d'un gros livre et d'un beau livre, presque au sens technique du terme, hein, un beau livre qui est très illustré avec de nombreuses photos et qui s'appelle tout simplement Comédie Française, une histoire du théâtre, un livre qui est signé par Agathe Sanjouan qui est conservatrice archiviste de la Comédie Française et qui par ailleurs conserve le patrimoine de l'institution et co-signé par Martial Poisson qui est professeur d'histoire culturelle et d'études théâtrales. Alors, bienvenue donc à Martial Poisson qui est venu avec sa vieille dame sous le bras, la Comédie Française. Bonjour Martial Poisson.
Bonjour.
Merci de venir nous présenter ce livre qui donc s'intitule Comédie Française et sous-titré Une histoire du théâtre. Ambigu quand même. Ce n'est pas une histoire de ce théâtre qu'est la Comédie Française, comme si la Comédie Française portait en soi toute l'histoire du théâtre français. Et le jeu de mots est facile.
Tout à fait. Le titre est faussement provocateur puisque pendant longtemps, la Comédie Française a, en tout cas pour prétention, d'être le seul théâtre puisqu'elle jouit d'un privilège royal et donc un monopole sur l'exploitation des spectacles dialogués en français sur toute la capitale et les faubourgs. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'elle soit en permanence concurrencée par les forains en particulier qui ont à cœur d'essayer de détourner l'interdit. Mais en tout cas, la vocation...
Les forains et uniquement les forains.
Les
Je
forains.
Pense bien sûr au XVIIe siècle et donc à Molière qui commence avec son illustre théâtre qui est pas si illustre que ça et qui se débrouille comme il peut et puis qui ensuite devient la troupe de Monsieur avant d'être la troupe du roi. Est-ce qu'il n'y avait pas au XVIIe siècle d'autres troupes plus ou moins officielles?
Alors le XVIIe siècle est en effet beaucoup plus complexe. On a une coexistence de différentes troupes et tout ça va cesser à partir de 1680, moment de l'institution par décret royal de la Comédie Française et imposition par le roi de la fusion d'entre les trois principales troupes concurrentes, dont d'ailleurs l'ancienne troupe de Molière. Et Molière n'a pas pu assister d'ailleurs à la fusion de ses troupes puisqu'il est mort 7 ans avant la création de la Comédie Française, ce qui n'empêche pas l'institution d'ailleurs de s'autoproclamer la maison de Molière et d'exploiter jusqu'à nos jours d'ailleurs cet héritage extrêmement riche.
Mais Molière est une étiquette qui vend bien, hein. On parle de la maison de Molière, on parle très sottement d'ailleurs de la langue de Molière à propos du français. Bon, le français c'est pas la langue de Molière, mais c'est comme ça parfois qu'on l'appelle, parce qu'il y a à côté la langue de Shakespeare, la langue de Goethe, bon c'est des façons de s'exprimer. Alors, un peu d'histoire donc, c'est de façon tout à fait délibérée que je nous ai fait retourner au XVIIe siècle, parce que c'est le siècle de la fondation de cette Comédie Française. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Martial Poisson?
Alors, l'intérêt de la Comédie Française, c'est qu'elle est à la fois le fait du prince, puisqu'elle émane d'une décision politique forte. Elle participe à la politique de rayonnement culturel du roi Soleil, de Louis XIV. Elle est un élément d'ambassade et un outil au service de sa gloire. Mais elle est également, dès les origines et jusqu'à nos jours, une société de comédiens. Une société de comédiens fondée sur le principe de l'actionnariat. Chaque comédien possède un certain nombre de parts qui est fonction de son ancienneté et de son niveau de notoriété, donc sur le modèle d'ailleurs des troupes antérieures. Donc,
alors, un mot de vocabulaire, on parle souvent par exemple des pensionnaires et des sociétaires de la Comédie Française. Quel est le distinguo entre les deux termes?
Alors oui, les sociétaires sont directement intéressés aux bénéfices puisqu'ils possèdent des parts de cette grande entreprise. Donc c'est pas le moindre des paradoxes d'être à la fois une institution publique et en même temps une société par action. Ils sont également décisionnaires, ils siègent à l'Assemblée des comédiens qui prend à peu près toutes les décisions. Ils sont également ceux par lesquels pendant longtemps s'effectuent les recrutements à travers des systèmes de coopération.
C'est coopté, donc ce sont ceux qui sont déjà sociétaires qui vont engager les nouveaux venus.
Voilà, tout à fait. Et il faut qu'un sociétaire, d'ailleurs, sorte de la troupe pour qu'un pensionnaire puisse prétendre au sociétariat. Donc on a une organisation assez complexe qu'on ne peut pas résumer à la différence entre CDI et CDD, puisqu'un sociétaire a une position permanente, mais peut malgré tout être remercié par la troupe, et en particulier remercié par ses pairs, on a un fonctionnement qui est à la fois un système d'autogestion, très collégial, mais malgré tout, qui repose sur des systèmes hiérarchiques établis.
Ça fait un peu penser à l'Académie française, qui partage avec la comédie d'abord son adjectif française, et puis son siècle d'origine, parce que tout ça, c'est post-Richelieu ou Richelieu, quoi.
Tout ça participe d'une même décision politique, qui est effectivement l'unification du territoire par la culture, et en particulier par la langue. Il faut créer, à la fin du XVIIe siècle, des outils susceptibles de permettre cette harmonisation et d'imposer effectivement une norme culturelle forte à la fois dans l'exercice de la langue, l'Académie française, et dans la créativité artistique, la Comédie française. Donc on a là tout un arsenal qui participe à la naissance d'une culture nationale dont la vocation à l'époque, et c'est resté le cas d'ailleurs jusqu'au régime républicain, est d'unifier les Français derrière des références partagées. Molière, comme vous le rappeliez tout à l'heure, faisant partie de ces références populaires incontournables.
La danse des mots et la comédie française avec vous, Martial Poirson, toujours à propos de la parution de ce gros ouvrage qui en retient donc les faits principaux et l'histoire. Et on a vu qu'au départ, la comédie française, c'était une troupe. Est-ce que au départ, c'est également un lieu ?
Oui, tout à fait. Au départ, la comédie française est intimement liée à l'histoire également de l'architecture théâtrale. On est dans ce moment où le théâtre commence à se jouer dans des édifices spécialement conçus pour la production artistique.
Alors, ce qui veut dire qu'on quitte parfois les tréteaux. Très souvent, on associe ce mot de tréteaux à l'idée du théâtre. Les tréteaux de France, ça a d'ailleurs un certain prestige de parler des tréteaux. Mais les tréteaux, ça évoque plutôt le théâtre itinérant, le théâtre sur des places, alors que la comédie française, c'est un lieu stable.
Absolument. Alors les tréteaux existent malgré tout, bien au-delà de la fondation de la Comédie française, et notamment dans les théâtres dits de foire, construits sur des baraquements en bois, détruits par injonction du roi, reconstruits dans la nuit, comme on le raconte souvent. Donc il y a toute une vitalité de ces formes qu'on appellerait aujourd'hui du théâtre de rue, si vous voulez, même si en fait...
De rue ou de pont, parce que souvent à Paris c'était sur les ponts.
Absolument, les ponts qui bénéficiaient de franchises, donc ça permettait effectivement de créer des troupes de théâtre. C'est également la réalité d'une grande partie du théâtre de province itinérant. Mais en tout cas, à la fin du XVIIIe siècle, et la comédie française participe de ce point de vue-là à un mouvement national, hein, on retrouve ça dans la plupart des grandes villes de province, des grandes capitales culturelles, crée des espaces dédiés, ce qui va permettre d'ailleurs de démultiplier les possibilités de la création scénique et notamment les techniques de plateau.
Et alors, où la comédie française s'est-elle d'abord installée ?
Alors, la comédie française s'installe d'abord à Rive-Gauche, dans un théâtre qui va être ensuite déplacé à plusieurs reprises, connaît de nombreux déboires, et plusieurs fois en travaux, va s'installer un temps dans les Tuileries, et finit par arriver seulement à la fin du XVIIIe siècle dans le bâtiment actuel, la salle dite Richelieu, place Colette, à partir donc de la fin du XVIIIe siècle.
C'est juste à côté de ce qu'on appelait jadis la place royale.
Absolument, tout à fait. C'est d'ailleurs
un havre de paix parisien avec un jardin absolument magnifique et le ministère de la Culture qui est juste à côté. Voilà. Ça fait quand même une belle concentration.
Et le Conseil d'État qui n'est pas loin, montrant que la comédie française reste aujourd'hui encore...
sous l'œil quand même de ceux qui veulent...
Vigilant du pouvoir.
Oui, absolument.
Bienveillant mais vigilant du pouvoir.
Ouais. Donc, il y a un lieu unique. Quelle est son architecture ? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport aux possibilités de voir et de montrer ?
Alors, on est dans un théâtre dit à l'italienne. Alors, le terme fait d'ailleurs débat, mais enfin, en tout cas, on est dans une boîte noire marquée par une séparation entre la salle et la scène, ce qui est justement différent des formes itinérantes dont on parlait, marquée par toute une machinerie activée par des métiers qui restent encore extrêmement importants aujourd'hui, le machiniste, le régisseur, tout ce personnel de la coulisse.
Il y avait beaucoup à l'époque de pièces à machine, comme on dit, c'est-à-dire avec des décors qui pouvaient bouger et puis qui retenaient l'attention, avec des dragons ou enfin des monstres qui arrivaient, avec des naufrages de bateaux, avec des choses qui font penser au cinémascope d'aujourd'hui, d'hier.
Oui, on a tout un théâtre d'enchantement ou un théâtre merveilleux qui trouve son point d'aboutissement notamment à la cour avec des formes comme la comédie-ballet dans laquelle Molière s'est essayé avec Lully et bien d'autres qui sont des formes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'art total, hein, danser, chanter avec de nombreux intermèdes musicaux.
Oui, et des durées qu'on a un peu oubliées aujourd'hui. Je crois que le Bourgeois Gentilhomme dans son intégralité, je sais pas, ça doit faire 4 heures.
Hein. Ah, on peut même arriver à 6.
Oui, je me souviens de l'avoir vu monter en scène magnifiquement par Benjamin Lazare, voilà, dans une reconstitution de ce qu'était justement le théâtre à l'époque. C'était extrêmement convaincant et bien fait, faut le dire.
Et oui,
avec l'accent même, et
une prononciation
de reconstitution, de parler un peu comme ça, avec une langue française qui va jusqu'en haut et qui redescend jusqu'en bas.
Une langue française, même.
Française, bien sûr.
Tout à fait. Oui, on a des expériences aujourd'hui tout à fait intéressantes de reconstitution historique de pièces d'époque qui permettent de les réinscrire dans leur durée, mais également dans leur saveur, avec cet éclairage à la bougie qui permet de faire miroiter les costumes.
Parlez-nous un petit peu de l'éclairage à la bougie, alors. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, l'éclairage à la bougie pose de nombreux problèmes, puisque, en fait, à l'époque, c'est même pas de la bougie, c'est de la chandelle. On est dans des graisses des graisses animales, voilà, qui émettent des fumées toxiques qui ont une vitesse de combustion extrêmement rapide, et le découpage d'ailleurs, la scansion des actes et des scènes correspond en fait au départ en partie à cette contrainte technique du changement des chandelles. Donc on voit bien que les questions techniques en fait conditionnent dans une large mesure l'écriture théâtrale à l'époque, chose qui s'est un peu perdue aujourd'hui, hein. On écrit vraiment pour les contraintes du plateau et en fonction des impératifs de la technique, l'éclairage en faisant partie. On coud des fils d'or dans les costumes pour pouvoir attirer le miroitement de la lumière. On crée toutes sortes d'artifices pour pouvoir optimiser, si vous voulez, le halo lumineux que ménagent les feux de la rampe, qui matérialisent justement cette différence entre la scène et la salle.
Alors, au XVIIe siècle, justement, les comédiens, en général, n'étaient pas très bien vus, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, par exemple, on interdisait qu'ils fussent enterrés en terre chrétienne. C'est pas rien. À partir du moment où on a l'onction royale, est-ce que ça change le regard que l'idéologie dominante, et en particulier la religion officielle, pouvait avoir sur le monde du théâtre?
Alors c'est tout le paradoxe de la profession de comédien, notamment à partir du XVIIe siècle, c'est qu'à la fois il jouit d'une notoriété, il est introduit en cour, les comédiens français vont régulièrement faire des représentations à la cour, et notamment ce fameux théâtre machinique à effet. Donc ils participent véritablement à l'élite culturelle de leur temps, mais néanmoins l'interdiction de l'Église demeure, l'excommunication demeure jusqu'à la Révolution française, et aucun roi finalement ne parvient à contrevenir à cette règle, à ce tabou absolu, le comédien étant celui qui invente des personnages que Dieu n'a pas conçus, donc il est blasphème suprême, parvient pas à sortir de ça, et à ça s'ajoutent toutes sortes de stéréotypes sur notamment la comédienne ou la danseuse facile, proche des métiers de la prostitution, qui vend son corps à la scène et en dehors. Donc on a comme ça toute une superposition de clichés qui ont la vie dure.
Ce qui peut s'expliquer, parce qu'en effet, les comédiens, c'est ceux qui se montrent, c'est ceux qui se font voir.
Ils se font voir, et à l'époque, en tout cas, ils doivent payer eux-mêmes leurs costumes, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc il est effectivement tentant d'avoir un grand mécène qui, à titre privé, va pouvoir vous faire briller de mille feux. Donc on est vraiment dans un moment où le métier de comédien est en phase de consécration, il y a une sorte de sacre du comédien.
Justement, est-ce qu'à l'époque, on commence à avoir des comédiens ou des comédiennes très connus? On se souvient par exemple de La Champmêlée, mais je pense que ça, c'est facilement 100 ans plus tard.
Absolument. Alors, en fait, finalement, les comédiens de Molière eux-mêmes sont très connus en leur temps. Hein. Des gens comme Lagrange, qui reprend la direction de de la troupe et qui est d'ailleurs à l'origine de l'acte de fondation de la Comédie-Française en 1680 sont des comédiens très en vue, mais ce qui change au XVIIIe siècle, c'est ce rapport très privilégié avec le pouvoir, c'est cette protection par un certain nombre de personnages très puissants de la cour, et c'est également cette sphère publique naissante. On a le
avec des traditions qui sont encore de mise aujourd'hui, en particulier le pseudonyme. Molière, il s'appelait Poquelin. Je ne sais pas si Armand de Béjart jouait sous le nom d'Armand de Béjart, mais très souvent, les comédiens et les comédiennes mettent en avant un nom qui n'est pas le leur. Pourquoi ?
Oui, on a le nom de scène, oui, au motif que, précisément, il y a toutes sortes de, toute une mystique du comédien qui entre en scène, qui finalement change de nature. Il y a tout un débat au XVIIIe siècle, d'ailleurs, sur le fait de savoir si le bon comédien, c'est celui qui joue de mémoire, en allant puiser en lui-même, finalement, des réminiscences qui lui permettent de comprendre les personnages qu'il doit incarner, ou si, au contraire, il doit se démarquer, comme le préconise Diderot.
C'est presque une mise en abîme, le fait de prendre un nom qui n'est pas le sien. C'est, d'une certaine façon, se mettre déjà sur scène dans la façon dont on se présente à son public.
Oui, ça fait partie des nombreux éléments de ritualisation qui permettent de déconnecter le personnage public du personnage privé, de la personne privée.
Ouais.
Et tout ça est renforcé par le début de la presse théâtrale qui va commencer à créer des effets de réputation. Ça commence dès la fin du XVIIe siècle avec des journaux comme le Mercure Galant qui a une rubrique théâtre assez importante. Ça se continue tout au long du XVIIIe siècle avec des journaux spécialisé dans la production théâtrale. C'est également perpétué par ce qu'on appelle à l'époque les nouvelles à la main, ou comme les mémoires secrets, en fait, qui sont des journaux publiés à destination de grands abonnés qui font partie des plus grandes cours d'Europe et qui sont à la fois un média, puisqu'il y en a plusieurs exemplaires qui sont émis en même temps, mais en même temps avec une diffusion restreinte, ce qui permet d'avoir l'impression de monopoliser d'une certaine façon certaines informations. Et ça va permettre notamment de colporter toutes sortes d'anecdotes théâtrales visant à épingler les rapports, en particulier entre les comédiens et notamment les comédiennes, et les grands de ce monde. Donc tout ça participe évidemment à cette construction complexe du statut de l'acteur jusqu'au 19e finalement d'ailleurs.
La danse des mots avec vous, Martial Poirson, puisque vous avez fait paraître aux éditions du Seuil et avec Agathe Sanjouan cette grande histoire de la Comédie française. La Comédie française, on sait bien qu'elle existe encore aujourd'hui avec un rôle particulier en France, mais à l'extérieur aussi, puisqu'elle a presque une fonction diplomatique de représentation de ce qu'est la culture française.
Absolument, la Comédie française, et c'est le cas d'ailleurs depuis ses origines, et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, joue une fonction d'ambassade, en fait. Hein, et à travers ses tournées qui sont souvent très coûteuses, qui sont extrêmement contraignantes, parce qu'on est dans un théâtre qui fonctionne sur l'alternance, hein, donc c'est le seul théâtre à Paris qui présente plusieurs spectacles différents sur une même semaine, de façon à ce que tous les gens de passage à Paris puissent avoir l'offre maximum de spectacles possible en un moment. Donc cette règle d'alternance, évidemment, elle va peser de tout son poids sur la logistique des tournées. À partir du moment où on a un certain nombre de comédiens phares qui partent en tournée, ça nécessite des reprises de rôles, ça nécessite de pouvoir assurer la continuité de la programmation de la troupe sur Paris. Donc ces tournées sont à la fois coûteuses et problématiques du point de vue de l'organisation. Mais elles sont fortement soutenues par un pouvoir qui voit dans la Comédie française un moyen stratégique de perpétuer la francophonie, de négocier un certain nombre de relations diplomatiques, voire parfois de travailler à faire connaître des pièces qui sont considérées comme subversives dans certains pays. Molière, encore une fois.
Alors la Comédie française, elle a une image... Une image très souvent un petit peu traditionnaliste, et de temps en temps on a pu la moquer, cette Comédie française, en particulier parce qu'elle a un répertoire. Alors qu'est-ce qu'on appelle le répertoire de la Comédie française ?
Alors la Comédie française, c'est le plus vieux théâtre d'Europe, donc effectivement c'est une vieille dame. Elle fonctionne depuis ses origines sur le répertoire, c'est-à-dire un ensemble de pièces, un catalogue de pièces qui ont été créées à la Comédie française.
Et il faut qu'elle soit créée là-bas.
Il faut qu'elle soit créée là-bas, ouais. Et la Comédie française, en contrepartie, s'engage à entretenir, nourrir le répertoire. C'est-à-dire qu'une pièce qui a été créée il y a 3 siècles, en théorie, devrait continuer à être régulièrement programmée à la Comédie française aujourd'hui.
Mais ce répertoire, il s'enrichit encore aujourd'hui, il change un tout petit peu d'image, on a l'impression qu'il se dépoussière un petit peu.
Oui, alors ça c'est un peu une vision anachronique, parce qu'en réalité, à chaque époque, ouais, la Comédie française a eu à cœur de repérer les artistes émergents, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, quand on commence à monter du Marivaux à la Comédie française, eh bien, c'est Marivaux qui crée finalement la notoriété, la Comédie française qui crée la notoriété de Marivaux. Donc en réalité, si on regarde, et c'est un des intérêts du livre, en fait, sur longue période, on constate que la Comédie française est souvent un lieu d'avant-garde d'expérimentation.
Elle est beaucoup moins conservatrice que ce qu'on peut penser.
Il y a des moments d'apesantissement, il y a des lourdeurs, il y a une activité effrénée. C'est aujourd'hui 400 personnels permanents, c'est une troupe permanente, c'est la règle de l'alternance dont je parlais. Donc,
Que font ces 400 personnes, Martial Poirson ? Parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs et d'actrices, bien sûr, mais ça ne fait pas 400 tout ça.
Absolument. Alors l'intérêt de la Comédie française, c'est d'être le conservatoire de tous les métiers du théâtre, et en particulier de ce qu'on pourrait appeler l'artisanat d'art. Mmh. Hein, pour fabriquer un costume, il faut à la fois donc un créateur costume, il faut des tailleurs, il faut des habilleuses, il faut des couturières, il faut des costumières. Donc on a au moins une dizaine de professions
dédiées. Et la Comédie française ne sous-traite pas tout ça. Ça c'est fait à l'intérieur du théâtre français.
Quasiment exclusivement. La Comédie française sous-traite aujourd'hui, à ma connaissance, les perruques et les chaussures en cuir, mais c'est à peu près la seule chose qu'elle a accepté de déléguer. Et sinon, on a des ateliers qui fonctionnent à plein régime toute l'année.
Oui, ça fait penser à l'opéra un peu.
Oui, tout à fait, c'est le même genre d'organisation. Alors, c'est pas non plus la même ampleur, il y a moins de personnes, mais on est effectivement dans cette activité entièrement autosuffisante, où tous les métiers se nourrissent les uns les autres, où on a une tradition de conservatoire de métiers. Je pense en particulier aux personnes qui sont chargées de repasser les costumes d'époque. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à la Comédie française qu'on sait repasser une fraise de théâtre. Une fraise de théâtre qui est utilisée dans beaucoup de pièces de répertoire. Donc, on comprend bien que...
Alors, dites-nous un peu ce que c'est qu'une fraise.
Ah bah, une fraise...
C'est difficile à expliquer quand on n'a pas l'image.
Oui, c'est difficile à expliquer.
Hein.
Il faut visualiser la chose.
Mais enfin,
c'est toute une structure tubulaire, voilà, qu'on retrouve notamment dans l'Espagne du Grand Siècle, et qui comporte plusieurs niveaux de tubulure superposés et qui nécessite donc de pouvoir, avec des fers spécifiques qui n'existent plus que là, maintenir cette structure amidonnée à travers des techniques tout à fait anciennes. Donc on voit qu'il y a une pérennité de ces savoir-faire et en même temps placée au service de l'avant-garde, puisque la Comédie française, et c'est en particulier le cas sous l'administration actuelle d'Éric Ruff, qui est en plus un homme intéressant puisqu'il est également scénographe, donc il a ce rapport matériel, ce rapport spatial au théâtre, hein, c'est pas simplement un professionnel du verbe, et donc il a à cœur finalement de faire valoir ces professions-là. Donc on a tout un ensemble de professions au service d'une troupe permanente et d'un répertoire constitué qui ne cesse de s'enrichir à travers un certain nombre de pièces contemporaines, et notamment le rapport actuellement avec le cinéma, qui est très intéressant.
Martial Poisson, est-ce que c'est cher d'aller aujourd'hui à la Comédie française ?
Alors la Comédie française, contrairement aux apparences, est un des théâtres les plus démocratiques puisqu'elle est subventionnée à plus de
80%. Ça se sait quand même,
oui.
Un peu.
Ouais. Oui.
On parle du paradis très souvent. Le paradis, c'est-à-dire les places qui sont les plus éloignées et les plus hautes, mais très souvent les moins chères.
Absolument, oui, tout à fait. Mais même finalement les bonnes places, je crois qu'il n'y a pas de place qui dépasse 40 € à la Comédie française. Donc on est très très loin, si vous voulez, de la composition d'une salle telle que l'Opéra de Paris en particulier. Ouais. L'État a à cœur de subventionner à plus de 80% la production pour permettre effectivement potentiellement à tous les Français de pouvoir y entrer, en tout cas sans contrainte économique. Alors après, il y a d'autres formes de contraintes. Mais
alors vous mentionniez tout à l'heure que bien sûr la Comédie française, elle est Place Colette actuellement, à côté de ses jardins du Palais Royal, mais elle s'est diversifiée, elle a plusieurs lieux. Aujourd'hui.
Oui, absolument. Elle a notamment repris le théâtre du Vieux Colombier, rive gauche, dans le 6e arrondissement, qui est encore auréolé du prestige de son fondateur, Jacques Copeau, une des grandes figures du théâtre français et du répertoire. Et elle est également positionnée au Studio Théâtre, donc dans le Carrousel du Louvre, dans cette espèce d'énorme complexe.
Juste à côté de ce qu'on appelle les guichets du Louvre.
Oui, oui, absolument.
Ça, c'est très agréable. Bien, c'est très joli.
Et on a donc trois salles aux dispositifs différents et aux capacités d'accueil différentes qui permettent justement d'expérimenter différentes formes, sachant que le répertoire, au sens strict du terme, ne concerne que la salle Richelieu.
La salle Richelieu qui est Place Colette. Grosse jauge, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent y aller ?
Pas tant que ça. On est quand même dans la structure d'un théâtre à l'italienne. Donc on a une contrainte. Beaucoup de places dites à visibilité réduite ont été supprimées au gré des restaurations successives, au gré des travaux de modernisation. Donc on est autour de 850 places, ce qui est finalement pas énorme, beaucoup moins que les théâtres dits démocratiques de l'après-guerre. Et c'est aussi une contrainte d'ailleurs que la Comédie française essaye de surmonter à travers notamment le projet de Cité du Théâtre.
Alors j'allais y venir, parlez-nous un petit peu de ce projet de Cité du Théâtre.
Alors la Cité du Théâtre, c'est trois choses à la fois. C'est d'abord un conglomérat artistique, puisqu'on y trouvera une salle dédiée au Théâtre de l'Odéon, le grand frère, si vous voulez, le grand voisin. Une autre consacrée à la Comédie française et également le Conservatoire supérieur national d'art dramatique. Donc on a à la fois une fonction d'école et une fonction de production artistique sur plusieurs programmations, un théâtre plutôt dédié au répertoire et un théâtre plutôt dédié aux pièces européennes, qui est l'Odéon. Et cet espace qui a été validé par le pouvoir, donc qui devrait voir le jour, se situera de façon tout à fait symbolique à mes yeux dans le nord de Paris, à l'extrême limite de la périphérie, de ce qu'on appelait longtemps les faubourgs, non loin du 93, et donc dans un territoire qui a été longtemps considéré comme trop éloigné des équipements culturels. Donc
c'est vrai, mais c'est en même temps dans la banlieue de Paris que sont nées ces 40 dernières années, quand même, avec les maisons de la culture, la plupart des grands théâtres du service
absolument,
public,
de ce qu'on appelle le théâtre public. Nationaux, ouais, tout à fait. Mais donc, en tout cas, ça permet des synergies nouvelles et ça pourra peut-être casser cette idée de cette opposition entre un théâtre de centre-ville et un théâtre de périphérie, et surtout relâcher les contraintes imposées par ce plateau dont les dimensions sont assez mal adaptées, notamment aux nouvelles formes de production et en particulier aux adaptations cinématographiques qui constituent un des grands pôles de développement de l'activité de la Comédie française actuellement. Donc on a un théâtre qui ne cesse de se moderniser dans sa forme comme dans ses outils.
Eh bien, merci beaucoup Martial Poisson. Je rappelle donc le titre de ce gros livre, Comédie française, une histoire du théâtre, c'est paru au Seuil, vous le co-signez avec Agathe Sanjouan. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans la Danse des mots d'aujourd'hui, qui est présentée comme à l'accoutumée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.